À vous faire. Après les journées sans tabac, les journées sans voiture, je propose qu'on fasse une journée sans Sarkozy. Oups, j'ai encore dit son nom.
Oui, bonjour, c'est Jean-Philippe de quelque part en France. Oui, je téléphone à Daniel pour et à vous tous pour vous dire que j'ai écouté ton émission sur Bhopal. C'était vraiment très très terrible, terrible ce qui s'est passé. Moi-même, ancien pompier de Paris, je suis très très conscient de tout ça. Et il y a quelque chose qui me fait encore bondir encore plus, c'est Tchernobyl, Daniel. Tchernobyl, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et ce week-end à Paris, nous allons manifester, parce qu'on est, comme tu as dit dans les émissions précédentes, nous sommes peut-être pas responsables du passé, mais nous sommes responsables du présent. Et je crois qu'il faut se bouger, Daniel. Faut bouger notre cul si on veut arriver à quelque chose. Voilà ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous samedi 17 janvier, place de la République à 14h, pour la manifestation contre le futur programme nucléaire. Voilà, à bientôt.
J'ai débarqué à Toulouse en septembre 2003. Exactement 2 ans après la catastrophe AZF, je me suis rendu le 20 et 21 septembre au Forum du citoyen averti et résistant. Risque industriel, pollution durable, organisé par collectif Plus Jamais Ça, ni ici, ni ailleurs. Ce collectif toulousain avait invité une délégation de Bhopal et une délégation de Galice, donc à Maïs, qui s'est créée suite à la catastrophe pétrolière du Prestige, afin de parler des risques technologiques à l'ère de la mondialisation libérale. J'ai découvert des témoignages des citoyens avertis et militants toulousains, indiens et galiciens qui m'ont énormément touché, brassé. Et malheureusement, la même triste histoire, ici et ailleurs, la même logique du profit au détriment des hommes et de la nature. À cette occasion, un film était projeté, Bhopal Express. Bhopal Express est réalisé par un Indien, Malesh Mathai. C'est un film, pas un documentaire, qui témoigne avec sensibilité de la vie, de la culture indienne et de ce drame qui plonge la ville dans l'horreur absolue. Et, petite bulle d'espoir, était aussi présente l'association Sambhavna, qui a créé un centre de soins, une clinique, et un centre de documentation pour les habitants de Bhopal, et met en place un jardin biologique de plantes médicinales. Et retrouvez tout plein d'infos sur le site www.bhopal.org. Je répète, www.bhopal.org. Voilà. Alors, pour faire face aux pollueurs, ici et ailleurs, soyons avertis, restons militants. Voilà, c'était Julie de Toulouse.
Alors, de Toulouse, on va à Bombay. Aujourd'hui commence le 4e forum social mondial. C'est à Bombay. Une centaine de milliers de personnes sont attendues, sont en train d'arriver. Ça a commencé. Et on va se faire l'écho de ce 4e forum social mondial avec une des figures importantes de ce forum social et aussi de l'Inde, des luttes nombreuses qui agite ce continent. C'est un continent de plus d'un milliard d'habitants, l'occasion de se dérouter un peu, hein, cette partie du monde dont nous ne savons pas grand chose, quelques clichés, nous aussi, hein, quand je dis nous, c'est vous et nous. Donc voilà, une occasion de rencontrer un peu ce pays et ceux qui y vivent et ceux qui y luttent. Alors, au Forum Social Mondial, et d'une façon tout à fait inattendue, une autre rencontre à Bhopal. Bhopal, bon, c'est Bhopal, mais c'est pas que Bhopal. Vous allez vous en rendre compte avec une rencontre insolite. D'ici là, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis, donc je vous rappelle le numéro 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. À Berlin, le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Caroline Bert sont assassinées par le gouvernement social-démocratique allemand. Leur
Bonjour, c'est François Fillon. Oui, puisqu'on ne sait pas trop quoi faire pour les chômeurs, je pense que ce qu'il faut, c'est les montrer du doigt et leur mettre un petit peu plus de pression. Comme ça, on aura fait ce qu'on aura pu.
Bonjour Daniel, c'est Benoît de Lille. J'ai appris ce matin que M. Vierville, l'ancien dirigeant de chez Renault, avait rendu un rapport préconisant la modification du droit du travail afin qu'une sorte de super CDD puisse être envisagée. Non content d'avoir réussi à instaurer un système néo-esclavagiste chez Renault, comme tu l'as montré dans tes émissions, ce monsieur souhaiterait maintenant appliquer ses théories à l'ensemble du monde du travail. Eh bien, je trouve que le libéralisme sauvage commence vraiment à prendre ses ailes en France.
Je viens de recevoir par courrier une lettre de la Sécu m'annonçant qu'à partir du 1er janvier, toute personne qui serait opérée ne serait plus systématiquement prise en charge à 100% par la Sécurité sociale, ce qui implique que les mutuelles vont être obligées de mettre la partie complémentaire, ce qui va bien sûr fortement augmenter les cotisations. Donc il faut savoir que les répercussions se feront tant au niveau des pharmacies que des kinés, que des infirmières et que des médecins. Bref, toute personne qui ne pourra pas se payer une mutuelle n'aura plus la possibilité de se soigner comme il le veut. Et nous arrivons à une santé à deux voire trois vitesses. Merci Monsieur Mattei ainsi que tous ses prédécesseurs. Bon avenir à tous. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Van Cutil en Inde. Alors, vous dites un eunuque, c'est un eunuque, mais c'est quoi un eunuque? Est-ce qu'on est eunuque ou bien est-ce qu'on le devient ? D'accord. C'est-à-dire que pour vous, être eunuque, c'est naître eunuque. Est-ce que ça veut dire naître avec une particularité physique ou bien est-ce que ça veut dire un état d'esprit ? Vous avez souri, ne dites pas non, vous avez souri en entendant ces questions. C'est vrai que dans une vie de reporter, il arrive qu'on pose des questions tout à fait saugrenues. Et bien, ces trois questions-là, quand même, elles étaient tout à fait saugrenues. Mais vous souriez, je souris, et bien, en Inde, on ne sourit pas du tout à ces questions-là. Les eunuques existent, c'est une communauté importante, plusieurs communautés même à travers cet immense pays qu'est l'Inde, et on va les découvrir aujourd'hui. Oui, des eunuques, et on va voir que ils sont à la fois redoutés et moqués, et certains, l'erreur, c'est certaines qu'il faut dire. Certaines participent à la vie politique et même se présentent aux élections. C'est au moins le cas de celle que nous allons rencontrer, qui s'appelle Souraya Nayad, que nous avons rencontrée à Bhopal. Dans ce sourire et ses sous-entendus, eh bien, il y a toute la distance et les... non pas les incompréhensions, mais enfin quand même un certain fossé qui s'est creusé entre l'Inde, les Indes on devrait toujours dire, et puis nous, notre Europe. C'est ce que découvrent actuellement ceux qui participent, qui sont en train d'arriver à Bombay pour ce 4e forum social mondial, qui n'a pas été de la tarte. Autant il y a une certaine connivence entre Porto Alegre, le sud du Brésil et l'Europe, alors que là, entre ce monde qui veut un autre monde et l'Inde, et les militants de l'Inde, des associations nombreuses, les mouvements divers et variés, c'est pas aussi évident. Mais évidemment, c'est dans le fait d'être dérouté que naît la pensée, la motivation et la stimulation, la jubilation aussi, et c'est ce que nous souhaitons à tous ceux qui vont participer, qui commencent à participer à ce 4e forum social mondial. C'est là-bas si j'y suis, c'est en Inde, c'est à Bombay, c'est à Bhopal et c'est sur France Inter.
Un original, c'est un original, et une copie, c'est une copie, et ça se voit très facilement.
Tu es syndicaliste ?
Je suis syndicaliste des mineurs à charbon dans l'état de Madhya Pradesh. Je travaille là depuis 32 ans et je suis ici à Bombay comme organisateur du Forum Social Mondial.
Ah, il faut dire deux mots parce que tout le monde est surpris en disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? On se dirait à quelque part à Paris. Tu parles parfaitement français, tu as vécu en France ?
Ben, il est arrivé que par coïncidence ou par accident, j'étais à Paris dans les années 60, 68. J'étais étudiant à cette époque-là.
Donc ensuite, tu es rentré en Inde, dans ton pays, et là, tu as milité, tu n'as pas cessé de militer dans les mouvements syndicalistes.
Ben, je suis revenu ici, je suis parti à travailler parmi les mineurs.
À travailler à la mine.
À la mine, et à les organiser. Donc de là, je suis devenu syndicaliste.
Alors là, on est dans l'espace où va avoir lieu le Forum Social Mondial. T'es un des porte-parole de ce Forum Social Mondial.
Ben, je fais partie de l'équipe des organisateurs. On est à peu près 45 organisateurs venant de tous les coins de l'Inde. Jusqu'à aujourd'hui, le forum avait lieu à Porto Alegre au Brésil. Et pour la première fois de Porto Alegre, le forum est venu en Inde.
Alors c'est vrai que, pas très exotique, hein, l'accent de notre ami Piquet Murty, eh ben non, parce que voilà, il explique lui-même, il a vécu longtemps en France, il a fait ses études, je crois même qu'il a fait une thèse sur Baudelaire, si mes informations sont exactes, et puis 68, et là il a participé à fond au mouvement de 68, et ensuite il est rentré dans son pays, en Inde, et là il a travaillé avec les travailleurs. Pendant des années, il a travaillé au fond de la mine, et ensuite il est devenu syndicaliste. Il a donc toute un passé et un présent de militant qui fait de lui aujourd'hui un des porte-parole, une des figures du mouvement social en Inde. Des figures du mouvement social en Inde, il y en a beaucoup. Il y a énormément de mouvements, d'associations de toutes sortes et de toutes sensibilités politiques, si bien que c'est pas facile nécessairement de s'y retrouver. Le mouvement dominant, disons, le phénomène dominant en Inde depuis le tournant des années 90, le début des années 90, c'est évidemment la globalisation. La théologie de la globalisation qui peu à peu est en train de gagner et de s'emparer de cet immense continent avec les dégâts que l'on a vus ailleurs et les menaces considérables pour ce pays considérablement peuplé. Quand on dit dans le thé par exemple, il y a une menace de suppression d'emplois, ça concerne 2-3 millions de travailleurs ou plus. Quand on parle de l'agriculture en Inde, c'est 70% de la population qui est concernée par l'agriculture, c'est-à-dire 700 millions d'Indiens. C'est tout de suite des chiffres extraordinaires. C'est peut-être dans la démesure de ces chiffres que nous commençons à être déroutés. C'est là que les choses se situent, puisque c'est à cause de la population que l'Inde avait pu se refermer sur elle-même, avoir un certain protectionnisme et produire ses propres ça se voit toujours dans les rues aujourd'hui, les voitures, les tout un tas de produits qui étaient pour le marché indien. Or depuis plus d'une dizaine d'années, il y a une ouverture et une très très grande inquiétude qui est présente, omniprésente dans ce quatrième forum social mondial de Bombay, comme nous le dit Piquet Morty.
Bombay est un centre industriel où généralement ça date de plus de 100 ans. Il y a une force ouvrière un peu militante de l'Inde, et surtout les industries textiles constituent ce qu'on appelle en anglais le backbone, c'est-à-dire l'épine dorsale. Et aujourd'hui, ces industries textiles ont été fermées. 72 de ces usines ont été fermées, qui fait des millions d'ouvriers qui ont perdu leur emploi parce qu'ils veulent transformer Bombay en Shanghai, en Singapour ou Hong Kong. Et on a aujourd'hui, avec la mondialisation, ces grandes industries textiles qui avaient 5 000 à 10 000 ouvriers qui travaillaient.
Dans chaque usine.
Qui sont fermées. Ouais. Et ce qui s'est passé, que ces ouvriers étaient des ouvriers permanents, ayant des sécurités sociales garanties. Maintenant, ce qui se passe, de nouveaux industries ont commencé, des petits entreprises, avec 40 à 50 personnes travaillant dans ce qu'on appelle power loom, c'est-à-dire des petits industries de tissage, qui ne sont pas organisées. Tous les ouvriers sont contractuels, pas permanents, n'ayant aucune garantie sociale. Un qui avait un ouvrier garanti recevait à peu près 200 roupies par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 4 euros. Et aujourd'hui, ils sont réduits à 35 roupies, qui n'est même pas 1 euro.
Le monde paysan aussi est frappé. Il faut rappeler qu'en Inde, c'est 70% de la population qui est paysanne. Et les paysans sont frappés aussi par la mondialisation.
Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils décident quels sont les produits qu'on doit produire. Aujourd'hui, par exemple, pour produire l'huile, que ce soit les arachides ou le sunflower, c'est décidé par des agences étrangères, pas en Inde. Et le paysan indien est obligé de s'ajuster, de couper des produits de base qui sont des produits alimentaires comme le riz et le blé, et de changer non seulement son méthode de cultivation, mais aussi quel produit il doit cultiver.
Comment la population réagit par rapport à ça?
En Inde, la classe intellectuelle, parmi la classe intellectuelle, peu sont opposés à la mondialisation. Et c'est important parce que ce sont les intellectuels et les classes qui sont éduquées qui, généralement, donnent une orientation à la conscience politique du peuple. Quand les classes intellectuelles sont pro-mondialisation, ils veulent parler de ce qui est bien de la mondialisation parce que, pour eux, ils ont intérêt d'avoir de tout ce qui est bon, ce qu'ils appellent bon, et parce qu'ils s'enrichissent. Leurs moyens ou leur manière de vivre se changent. Mais en ce qui concerne le reste de la population en Inde, qui constitue 90% de la population, ils ne sont pas là. Nous, on est là, d'accord. Mais le média, surtout la presse, les journaux, sont pro-mondialisation. Donc nous, on n'a pas la voix. Donc ce que nous, on veut dire contre la mondialisation n'arrive pas jusqu'à au peuple. Par exemple, vous prenez tous nos journaux les plus importants, que ce soit en anglais ou dans les langues locales. Aujourd'hui, on ne parle plus des nouvelles de lutte syndicale, ouvrière, paysanne, ce qui se passe dans les villages. Il n'y a que ceux qui contribuent pour devenir riches. Des pages entières qui sont dédiées à des publicités, de toutes les choses qu'on n'a pas besoin en Inde. Par exemple, l'eau. Eh ben, même l'eau à boire, aujourd'hui, ça commence à être privatisé. Il y a au Kerala, au Chhattisgarh, des compagnies comme Coca-Cola qui sont à la poursuite d'acheter toutes les ressources en eau, de l'eau indienne qui est mise dans des bouteilles faites en Inde, mais avec l'étiquette des compagnies étrangères, qui est vendue à 10 roupies par bouteille. 10 roupies, c'est... Avec 10 roupies, tu peux manger à 5 roupies le matin, 5 roupies le soir. Ça fait le repas du matin et du soir. Mais tu es obligé d'acheter 8 litres d'eau pour 10 roupies. Donc, vous voyez à quel point mondialisation veut dire aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, ben oui, pour eux, mondialisation, ça offre un monde complètement occidental, avec des facilités occidentales, niveau de vie occidental, mais en rapport du contexte asiatique ou indien, eh ben, l'indien a été plutôt repoussé en arrière.
Donc ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par des inégalités croissantes, une misère croissante, une augmentation de la population autour des villes. Déjà que Bombay, avec la banlieue, c'est 22 millions d'habitants.
Oui, ces conflits sont déjà apparents. Parce que dans les villages aujourd'hui, il y a pas mal de mécanisation. Il y a des tracteurs qui sont venus, ce ne sont plus des charrues à bœufs. Il n'y a pas d'emploi pour les paysans. Ils viennent vers la ville. Dans la ville, il n'y a pas de boulot parce que déjà, ceux qui sont dans les ouvriers dans la ville sont jetés hors d'emploi. Donc, il y a un conflit grave. Et ce qui se passe, par exemple, à Bombay, il y a quelques jours, il y a eu une attaque sur les gens qui viennent hors de Bombay, disant que ce sont des étrangers et que l'emploi soit donné seulement à ceux qui résident en Bombay. Et pas des gens qui viennent hors de Bombay.
What I'm saying is that if you actually wanted to develop these villages, are you saying that displacing them from their lands and homes, their language, their religion, their everything, dumping them in tin sheds in Gujarat is the way to do it? Why is it that for 50 years...
La voix de la Beauvais indienne, oui. Elle s'appelle Arundhati Roy, elle est très jeune, elle est très jolie et elle est très combattante. Elle est l'auteur à succès d'un livre qui s'appelle Le Dieu des petits riens, qui a eu un succès mondial, mais elle est une militante tout à fait engagée dans son pays, et elle est l'auteur, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vous le redis encore, d'un petit bouquin de la collection Folio, Documents, c'est en poche, un bouquin qui s'appelle L'écrivain militant, et elle sera présente à ce forum social mondial à Mumbai, on dit plus Bombay, hein, on dit Mumbai, et elle se pose des questions que les adversaires de la mondialisation libérale, de la globalisation se posent partout. Elle y apporte un certain nombre de réponses, elle est engagée dans des combats contre un fameux barrage, mais sur un tas de points, elle n'est pas toute seule évidemment, mais on va se contenter de ça, c'est-à-dire qu'on va en faire une image, elle est jolie, on va la présenter partout, on va s'occuper de son intérieur, son chien, etc. Et je ne sais quoi d'autre, comment c'est préoccupé de la moustache et de la pipe de Beauvais, ce qui nous épargne de comprendre et d'écouter ces porte-parole essayent de dire. Et Arundhati Roy voit dans cette mondialisation une variété mutante de colonialisme commandé à distance et contrôlé par le numérique. Le numérique, l'informatique, c'est une grande affaire, comme vous le savez, en Inde, mais il y a la culture traditionnelle, on va en parler beaucoup au cours de ce forum de Mumbai, et notamment la condition des femmes. On va parler de patriarchie, des mots auxquels on n'est pas très habitué, le communalisme et non pas le communautarisme, on verra pourquoi. Évidemment, on va parler aussi de ce système des castes que nous avons pas mal de difficultés, nous autres, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, mais à appréhender. Et par exemple, concernant le système des castes, Arundhati Roy rappelle sur l'ignorance, pourquoi faut-il maintenir les masses dans l'ignorance? Eh bien, on trouve cette nécessité écrite dans le Manus Meriti, c'est-à-dire le code de conduite hindou inspiré des Védas à destination des brahmines, des brahmanes, enfin des brahmaniques, du monde brahmanique, qui dit que si un dalit, c'est-à-dire un hors caste, un intouchable, entend un shloka, c'est-à-dire un extrait d'un texte sacré, eh bien il convient immédiatement de lui verser du plomb fondu dans l'oreille. Hein, il faut maintenir le dominé dans l'ignorance. Et elle continue, parce qu'elle fait un rapprochement avec aujourd'hui. Elle dit, ce n'est pas une coïncidence si l'Inde, qui s'apprête à jouer un rôle de premier plan dans la révolution informatique, compte des millions d'analphabètes. Je crois que c'est la moitié à peu près de la population de l'Inde qui est maintenue dans cette ignorance qui est hors de l'accès à l'écriture. C'est dire les problèmes qui se posent à ce monde qu'est l'Inde. Et évidemment le courage de ceux qui luttent et qui sont très nombreux, parmi lesquels Piquet Martin.
À part pour des questions, les mêmes questions qui ont été soulevées à Porto Alegre, de ce qui s'appelle de mondialisation néolibérale et de la guerre, ici en Inde, il y a trois thèmes qui ont été ajoutés. L'un, c'est ce qu'on appelle la patriarchie, c'est-à-dire le chauvinisme masculin. Le second, c'est la question des castes. Et le troisième, c'est le communalisme.
Communalisme, c'est-à-dire la montée du parti hindou sur une base religieuse, nationaliste et religieuse.
Il s'efforce, ce qu'on appelle ici hindou fasciste fondamentaliste, comme le Shiv Sena et le BJP, et ben Bharatiya Janata Party, qui généralement voient Hitler comme leur modèle, et ben ces partis ont commencé à créer cette mentalité fasciste. C'est pas l'hindouisme, ça n'a rien à voir avec la religion hindoue, c'est un genre de illusion que aujourd'hui il n'est plus question de lutte de classe ou lutte pour des intérêts économiques, mais qu'on doit se regrouper en tant que religion contre d'autres communautés, que ce soit musulmans, chrétiens ou sikhs, parce qu'à chaque moment ça change, c'est pas toujours les mêmes. Il y a un moment les sikhs qui étaient les victimes, puis les chrétiens, et aujourd'hui les musulmans. Et les musulmans, ça a toujours été, parce que c'est beaucoup plus facile d'attiser ce feu, cette haine hindou-musulman, surtout après le 11 septembre. Si on a des problèmes, c'est à cause des musulmans. Et s'il ne pleut pas en Inde, ben, ce sera à cause du Pakistan. En Inde, on a ce système social qui n'a pas de parallèle en Europe ou dans n'importe quel pays du monde. Un système qui a été imposé sous le nom de religion hindoue, parce que généralement on parle que d'hindouisme comme quelque chose de mystique et spirituel. Je m'excuse de dire ça, que l'hindouisme a ce côté affreux où tout le monde dans ce système ne seront jamais égaux. De là, vous pouvez comprendre, démocratie dans un pays où le système de caste existe et se perpétue, parce que ça peut pas être démocratie.
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
On est dans un endroit incroyable ici, dans un quartier de Bhopal, et on est dans une sorte de cour, comme un petit hôtel, on va dire, avec un décor absolument magnifique, des ornementations florales, géométriques, de tout un tas de couleurs. Et alors sur les rambardes, sur les balcons, il y a des affiches pour une campagne électorale avec un personnage qui se présente et qui est devant moi.
Mera naam Suraya Nayak.
Je m'appelle Suraya Nayak.
Hum logo ko kinnar bola jata hai aur hamara kaam hai nachne gaane ka, bacche ki badhai lene ka, Holi Diwali mangne ka.
On nous appelle des eunuques, on est des gens qui gagnons notre vie en dansant, en chantant et en se faisant payer pendant des naissances et des mariages dans les familles.
Parlez-nous déjà un peu des eunuques. C'est une chose tout à fait surprenante pour nous en France. Comment vous êtes vu par la population ?
मैं दूसरों का तो कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपना कह सकती हूँ. मुझे बहुत अच्छी नजर से देखते हैं. सुरैया मौसी करके बोलते हैं, सुरैया जी करके बोलते हैं.
Je ne peux pas parler de tous les eunuques de Bhopal, mais au moins en ce qui me concerne, moi, je suis respectée. On m'appelle la tante Suraya ici, et les gens sont très chaleureux envers moi.
Alors voilà, vous avez compris, nous sommes avec tante Suraya Nayad, qui est une eunuque, on va dire une, parce que elles tiennent à ce qu'on les appelle ainsi. On les appelle eunuques ou hijra. Hijra, ça veut dire ni homme ni femme, mais ils occupent une place très importante. Elles occupent une place très importante dans l'imaginaire de l'Inde. Peu de comparaison avec des sociétés dans nos cultures à nous. En fait, l'histoire raconte que leur présence remonte à l'époque des conquérants venus à cheval depuis les steppes d'Asie centrale et au XVIe siècle, un descendant des Gengis Khan qui s'était installé en Inde du Nord et qui a fondé la dynastie moghole est arrivé avec son harem, et qui dit harem dit eunuque, d'où l'origine de cette tradition, enfin en tous les cas de cette culture et de ces communautés qui se succèdent. Mais on raconte d'autres histoires sur leurs origines. Là on est avec Suraya, tante Suraya, vous avez entendu, qui se présente aux élections. Donc voilà une autre façon de faire de la politique dans ce pays. On est assis dans cette petite cour triangulaire chamarrée, décorée de motifs géométriques, avec cette personne qui est là, accueillant dans un sari bariolé, colorié, avec des bijoux, des boucles d'oreilles, des montres en or, enfin clinquantes de partout. Et à côté d'elle, son ami. Voilà, son ami, alors une jeune hijra, très très jolie, très chamarrée aussi, très immobile et très silencieuse.
हमारे जितने समाज के किन्नर हैं, हम लोग सब एक समाज बन के रहते हैं, किन्नर भाई में किन्नर, और वैसे सब धर्म को मानते हैं हम एक।
Nous sommes une seule communauté, on n'a pas de caste au sein de notre communauté. Un eunuque c'est un eunuque, toute religion et caste confondue.
Alors, vous dites un eunuque c'est un eunuque, mais c'est quoi un eunuque? Et pourquoi faire?
भगवान ने किन्नर बनाया है जो तो अपन कह नहीं सकते, भगवान की महिला है, क्यों बनाया है और कैसे बनाया है, बनाया तो है किन्नर।
Nous n'en savons rien, nous ne savons pas pourquoi nous avons été créés, mais dans la convention des eunuques qui a eu lieu le 1er décembre à Bhopal, il y avait des eunuques de 2 ans. Ils étaient nés comme ça et nous avons accepté notre nature telle qu'elle est et nous avons adopté les métiers qui nous ont été donnés dans la société jusqu'à maintenant.
Est-ce qu'on est eunuque ou bien est-ce qu'on le devient ?
देखिए, हम वैसे बनाए तो नहीं जाते हैं जब तक अखबार फैलाई जाती है। अगर किसी की एक उंगली काट दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है, जब तो पैदाइश ही होते हैं किन्नर।
Moi je crois qu'on est né eunuque. On ne peut pas créer des eunuques.
D'accord. C'est-à-dire que pour vous, être eunuque, c'est naître eunuque. Est-ce que ça veut dire naître avec une particularité physique ou bien est-ce que ça veut dire un état d'esprit?
जो कोई भी ओरिजिनल चीज होती है तो वो ओरिजिनल दिखती है, डुप्लीकेट चीज होती है डुप्लीकेट दिखती
है। Un original c'est un original et une copie c'est une copie et ça se voit très facilement.
दाढ़ी नहीं हमारी, मूछ नहीं।
Regardez, je n'ai pas de barbe, je n'ai pas de moustache. Comment est-ce que je peux être un eunuque pas original?
D'accord. Oui. Voilà ce que nous dit Souraya, mais c'est pas ce que dit la rumeur. La rumeur, les rumeurs sont très nombreuses au sujet des eunuques à travers le sous-continent indien. On dit qu'ils sont hermaphrodites, qu'ils sont des hermaphrodites. On dit aussi qu'ils sont des travestis. On dit aussi qu'ils sont des transsexuels. On dit qu'ils sont des eunuques volontaires qui se sont mutilés ou qui sont faits mutiler par choix pour changer de sexe, et on dit aussi qu'ils ont été victimes de gangs qui kidnappent les garçons, les droguent et les opèrent afin de les prostituer, afin de peupler leur communauté. Alors rumeur, vérité. Très compliqué de le savoir. Je vous conseille la lecture d'un livre tout à fait remarquable de Zia Jaffray, Zia 2FREY, qui s'appelle Les derniers eunuques en Inde avec les hijras, donc avec qui nous sommes aujourd'hui. C'est un petit bouquin dans la petite bibliothèque Payot. C'est une enquête très longue et très passionnante. Passionnante comme les réponses que nous fait Soraya.
और अपने फिर आगे चल के लड़ूंगी मैं और इलेक्शन में लोकसभा का भी मेरा इरादा है लड़ने का।
Je viens de me présenter aux élections que j'ai pas gagné. L'année prochaine, je compte me présenter encore aux élections de l'Assemblée nationale.
Vous vous êtes lancé dans l'action politique. Alors, quel était et quel est votre programme? Sur quel programme vous êtes présenté devant les électeurs?
इलेक्शन के अंदर मैंने काफी पैसा खर्च करा है। मेरे मुद्दे थे महिला की इज्जत करना।
J'ai beaucoup dépensé dans ma campagne électorale. Un des premiers sujets sur lesquels je voulais travailler, c'était le respect des femmes dans la société.
जे बेरोजगारी।
Le chômage।
बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, गरीबी स्कूल में, जैसे गरीबी एरिया के अंदर स्कूल है तो मास्टर सही तरह से नहीं आते।
L'éducation correcte pour les enfants, notamment dans les quartiers pauvres où le niveau de l'éducation, la qualité de l'éducation est très, très pauvre. Bon.
Alors revenons un petit peu au thème de votre campagne politique, de votre campagne électorale, que vous avez perdu, mais ça ne vous empêche pas d'avoir toujours les mêmes convictions. Sur la condition des femmes, ça peut paraître un peu curieux que les eunuques se préoccupent de la condition des femmes.
महिला जो होती है मंदिर में बैठी होती है वो भी एक माँ होती है, एक माँ वो होती है जो जन्म देती है। महिला ने हर ऋषि मुनि को साधु को
La femme par définition est la procréatrice, c'est la femme qui a donné naissance à tout le monde, aux rois, aux sages.
Et aux eunuques.
Et aux eunuques, et c'est ça la force des femmes, et il faut lutter pour le respect des femmes dans la société.
Là, On suspend un petit peu parce qu'il y a des problèmes de photos. Alors Soraya se met en beauté, montre son décolleté, montre ses bijoux. Montre ses bijoux de partout, elle est très narcissique et s'amuse beaucoup à s'exhiber avec beaucoup de plaisir, avec une belle montre en or, avec ses boucles, ses dents en or, et tout, voilà. Et sa compagne, qui est très jeune et très mignonne. Là, on s'amuse parce que vous vous mettez en beauté et tout ça. Mais est-ce qu'on vous prend au sérieux ?
Non, ça ne change rien à mon image politique. En général, ça plaît aux gens de me voir coquette comme ça. Et par contre, quand je ne m'habille pas ou si je ne porte pas tous ces bijoux, etc., les gens me demandent pourquoi je suis comme ça et pourquoi je suis triste.
Donc, tout ça, la parure, le maquillage, les bijoux, les robes très colorées, tous les vêtements très colorés, les châles colorés, tout ça, c'est la gaieté, c'est la vie.
Oui, c'est un signe de bonheur. Quand je sors pour des événements importants, je m'habille avec beaucoup de soin et j'essaie d'être aussi belle que possible.
Bon, on nous a dit qu'il y a eu une sécheresse ici, dans la région, et qu'on a fait appel à vous, c'est-à-dire le gouvernement a fait appel à vous pour que vous fassiez des prières pour faire venir la pluie, et effectivement la pluie est venue.
मैं गई थी मेरे को सीएम साहब ने बुलाया था और मैं लेके काफी लोग आए थे फिर मैं गई नहीं तो सब जन आए मैं अपने पूरे चेले नातिन को लेके गई ढोलक बजाती हुई माता का गीत गाती हुई गई वो मैं तालाब के अंदर गई तालाब के अंदर मैंने प्रार्थना करी भगवान से और
c'est vrai que l'année dernière le premier ministre ou le chief minister de l'état avait fait appel à nous pour venir faire des prières pour la pluie. Moi j'étais partie avec tout mon groupe avec des tambours et nous sommes allés au lac supérieur de Bhopal faire des prières, nous avons chanté des bhajans ou des chants religieux hindous et nous avons chanté des kavalis pour appeler la pluie. On a fait ça 3 fois et c'est vrai qu'après ça, la mousson a été bonne.
Tout le monde vous respecte dans ces cas-là. Vous êtes des personnages magiques.
Le Dieu nous écoute.
Alors on est dans ce patio coloré, décoré.
La chanson pour la pluie.
Ah oui, mais ça va marcher ou pas ?
Mais non, on ne veut pas que l'équipe pleure. C'est la chanson qu'on a chantée pour avoir de la pluie l'année dernière et peut-être qu'il va pleuvoir d'ici 2 ou 3 jours à Bhopal.
Comment on sera reparti ? C'est pas tout de suite, ça va pas pleuvoir tout de suite.
Non, ça va.
Alors attention, on va vous faire entendre cette chanson, chanson donc des eunuques de Bhopal. C'est une chanson qui fait pleuvoir. Alors ça a fait pleuvoir à Bhopal et très vraisemblablement, ça va faire pleuvoir en France dans les 3 jours. Dans les 3 jours, il devrait pleuvoir à plusieurs endroits de la France. Nous sommes avec des personnages qui sont magiques, qui sont des personnages magiques. Quand vous leur dites vous êtes un personnage magique, ils vous répondent très humblement en baissant les yeux. Le Dieu nous écoute.
Yashoda tera lal jila de radha pyari re ha
extraordinaire la situation dans laquelle on est. Il y a un gamin qui est un très 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 beau, ce gamin, hein, avec un petit panier métallique avec des verres de thé au lait chaud. Et là, il est en train de regarder. Il est quand même un petit peu étonné par la scène de voir ses eunuques dans cette cour. C'est un genre de patio, quoi, mais alors avec des décorations très 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 coloriées, de fleurs, d'ornements de toutes sortes. Et puis le drapeau là-haut, hein. Le drapeau qui ressemble un peu au drapeau des gays, Rainbow Flag, sauf que c'est pas les mêmes couleurs.
Et dessus, il y a le livre qui est le symbole de son parti.
Ah oui, ça c'est vrai que c'est étonnant. Parce que, étant donné le nombre d'illettrés en Inde, c'est autour de au moins 40% des gens qui sont illettrés, les partis politiques ont des sigles. Alors, il y a le lotus, il y a la main, et le parti de Soraya, c'est...
Qui s'appelle le parti de ceux qui ont déjà gagné.
Qui s'appelle le parti de ceux qui ont déjà gagné. Le dessin, c'est un livre. Il y a le gamin qui s'en va avec son petit panier, et ses verres de... Là, il attend encore, il y en a un qui n'est pas fini. Non, il y a encore ce verre-là qui l'attend. Ah. Tiens, on va demander, viens nous voir, viens nous voir. Bonjour, comment tu t'appelles?
Sonu.
Sonu? Oui. Quel âge tu as?
2 ans.
J'ai 10 ans.
Tu as 10 ans? C'est quoi ton métier, ton travail?
Je travaille dans un hôtel.
Tu fais quoi dans l'hôtel?
Je lave des tasses et des verres.
Tu laves des tasses, ça fait combien d'années? Quand est-ce que tu as commencé?
Ça fait un mois que je travaille dans cet hôtel. Je commence le matin et je termine le soir.
Et tu gagnes combien d'argent? Combien on te donne?
20 roupies.
Je gagne 20 roupies par jour.
Ça fait combien d'argent, 20 roupies?
20 roupies, ça fait 50 centimes d'euros.
Ça fait un demi-euro?
Un demi-euro.
Ça fait un demi-euro par jour. Et tu as des frères et des sœurs?
J'ai un frère. Il nettoie des camions.
Il a quel âge?
Je ne suis pas sûre, il a peut-être 12 ans, 13 ans ou 14, je ne sais plus. Peut-être que plus de 14. Il est déjà marié, mon frère.
Et tu vas à l'école?
Je vais à l'école et je suis en première classe.
Mais quand est-ce que tu vas à l'école si tu travailles tout le temps?
Je vais à l'école à 8h du matin, je reviens à midi et je travaille à partir de midi.
Tu es de quelle caste?
Je suis de la caste des vendeurs de légumes. Ça s'appelle la caste Kachi. Voilà, ce sont des agriculteurs, des paysans qui vendent des légumes.
Et tes parents sont où?
Mamie Katamori. Papa.
Papa, il y a un Bhopal, mais là. Ma mère, elle est décédée, mais je vis avec mon père à Bhopal.
हम लोगों में जैसे बदाई पे जाते हैं बदाई पे जाने के बाद में जो मांग के लेके आते हैं उसके बाद में वही पैसा हम जोड़ते हैं और
en général nous les eunuques on n'a pas d'emploi spécifique et notre seule source de revenus c'est d'aller féliciter les gens au moment des mariages et des naissances et en retour les gens nous payent pour qu'on puisse survivre.
C'est-à-dire que au moment d'une naissance vous venez, on vous fait venir et c'est une garantie d'une bénédiction, c'est un peu comme une bénédiction pour les enfants. Quand il y a une naissance, on vous appelle.
Parfois, les gens nous envoient des messages, mais très souvent, on va chercher nous-mêmes en applaudissant dans les rues pour signaler aux gens qu'on est là.
Alors, donc vous venez pour les naissances, vous venez aussi pour les mariages.
Oui, mais aussi pour des fêtes comme le Holi et le Diwali. C'est des grandes fêtes hindoues, le Holi et le Diwali. Nous n'aimons que ça dans la vie, les festivals, les occasions heureuses.
Nous aimons
notre vie et notre façon de vivre. Si on nous demandait d'aller travailler ou si nous on nous proposait des enfants, on ne les prendrait pas parce que nous croyons à passer notre vie à bénir les enfants et à prier pour des femmes qui n'ont pas d'enfants.
à fêter pendant la joie des autres.
On risque pas de vous voir à un enterrement.
Nous allons aussi à des enterrements et les jours où il y a un mort dans notre quartier, nous ne travaillons pas. Voilà, nous nous couvrons la tête comme ça, nous nous cachons et nous allons nous
partager la peine. Oui. Là, vous vous maquillez pas pour les enterrements, pas de maquillage.
Non, là, nous nous maquillons pas, nous ne portons pas de maquillage.
Traduis-moi les affiches électorales de Soraya. Qui se présente là avec un grand sourire et les doigts en V.
Alors le premier slogan, ça dit « Ceux qui aiment Bhopal éliront Soraya de Bhopal pour représenter le peuple ».
Et l'autre ?
L'autre, ça dit « Si Soraya se présente dans les élections, c'est pour répondre aux demandes de tout le monde ».
Donc là, vous vous lancez en perspective des législatives ?
Oui.
Sur les mêmes thèmes ?
Les sujets, ça dépend du public. Moi, je vais travailler sur tous les sujets qui concernent le public et les questions qui les intéressent.
Est-ce que vous êtes sensibilisé à la question de la mondialisation, de la globalisation en Inde ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
J'ai jamais beaucoup réfléchi à cette question. Il y a des gens qui peuvent venir en Inde et nous, on peut aller à l'étranger. Donc.
Alors, la prochaine échéance, donc, c'est les législatives.
J'ai toutes les intentions de me présenter aux élections. Je préfère me présenter aux élections et même perdre à rester inactive.
Ah, génial.
Parce que je suis citoyenne du pays. Regardez Uma Bharti qui vient de devenir chief minister du Madhya Pradesh. Elle aussi, à une époque, elle n'avait rien à faire dans la politique. Et regardez-la aujourd'hui, donc je garde l'espoir.
Alors maintenant, vous pourrez dire, Soraya, vous pourrez dire, même les journalistes du monde entier viennent me voir.
Un original, c'est un original et une copie, c'est une copie et ça se voit très facilement. Moi, je crois qu'on est né eunuque. On ne peut pas créer des
eunuques.
Mais dans la convention des eunuques qui a eu lieu le 1er décembre à Bhopal, il y avait des eunuques de 2 ans. Ils étaient nés comme ça et nous avons accepté notre nature telle qu'elle est et nous avons adopté les métiers qui nous ont été donnés dans la société jusqu'à maintenant.
Alors ça c'est la version de Soraya Nayad sur les eunuques, il y en a d'autres, en tous les cas on la remercie, merci aussi à Peke Murthy, merci à Mathieu, merci à Pierre Prakash de Libération, merci à Patrick Truertz, traduction Rupam Singh, montage Yann Chouquet, le livre dont j'ai parlé de 2 livres, Les derniers eunuques en Inde avec les hijras de Zia Chafresh et Payot, en poche Payot, et puis Arundhati Roy, l'écrivain militant Folio Gallimard, reportage Guy Vanctil, technique aujourd'hui Patrick Henry, Philippe Jurado, répondeur Christophe Imbert, musique Coyenne Guyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 18h sur France Inter, je vous laisse avec le journal.